Le journal est présenté par Hugo Lanoë.
Bonsoir à tous. L'heure des comptes a sonné pour Christophe Castaner. Interrogé dans la matinée par la délégation parlementaire au renseignement, le ministre de l'Intérieur est passé sur le grill de la commission des lois cet après-midi, 5 jours après l'attaque à la préfecture de police de Paris. Les agriculteurs en colère, des routes bloquées, des opérations escargots dans plusieurs départements aujourd'hui. Tous dénoncent les arrêtés anti-pesticides et le dénigrement de leur secteur, vous l'entendrez. La politique du revirement, c'est bien celle de Donald Trump. Sous la pression de la communauté internationale, le président américain nuance ses propos. Les États-Unis ne vont pas abandonner les Kurdes de Syrie. En attendant, la Turquie est prête à lancer l'offensive. Quelles en seraient les conséquences? Éléments de réponse avec notre invité. Ce fut une journée marathon pour le ministre de l'Intérieur, critiqué par l'opposition pour sa communication et sa gestion 5 jours après l'attaque de la préfecture de police de Paris. Christophe Castaner a enchaîné les auditions aujourd'hui. Tout a commencé ce matin à huis clos avec les questions de la délégation parlementaire au renseignement. Le locataire de la place Beauvau a ensuite répondu cet après-midi aux interrogations de la commission des lois de l'Assemblée. Le premier flic de France se défend et assume, Rosalie Lafarge.
Les critiques s'enchaînent, le ministre de l'Intérieur y répond.
Ne caricaturez pas dans vos propos le fait que rien n'aurait été fait. La vérité d'aujourd'hui sur ces signaux et sur le risque n'est pas la même que celle de 2015.
Christophe Castaner a à l'offensive devant les députés de la commission des lois. Certains l'accusent d'avoir parlé bien trop vite après les faits. Le ministre avait alors assuré que l'assaillant n'avait jamais présenté de difficultés comportementales. Éric Ciotti, pour Les Républicains, s'en souvient.
Vos propos hâtifs ont altéré la crédibilité de votre fonction. Donc je voudrais vous demander personnellement si vous regrettez d'avoir parlé si vite.
Mais le premier flic de France assume ces mots.
Qu'ai-je dit ? La vérité. La vérité des éléments qui étaient connus au moment où je m'exprime. Alors je vous le dis, monsieur Ciotti, le problème n'est pas ce que j'ai dit. Le problème est, pour moi, de savoir comment l'auteur de l'acte est passé au travers des mailles du filet.
Christophe Castaner n'hésite pas à parler de nouveau d'une série de dysfonctionnements dans la détection de la radicalisation de Michaël Harpon, exemple à l'appui.
Quand on fait une habilitation, on fait l'environnement et donc on fait la famille, donc on fait le conjoint. L'auteur s'est marié en 2014. Cela n'a pas déclenché un nouveau contrôle. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne sais pas, mais c'est un dysfonctionnement parmi les dysfonctionnements qu'on peut noté au moment où je vous parle.
Interrogé sur la radicalisation au sein des forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur évoque une quarantaine d'individus concernés au sein de la police, des individus suivis par une cellule spécifique, assure le locataire de la place Beauvau, qui précise que pour tous les cas où le risque a été caractérisé de façon suffisante, les agents ont été écartés.
Rosalie Lafarge est du côté de l'enquête. Pas de revendication, pas d'allégeance découverte pour le moment par les enquêteurs. L'attention se concentre sur une clé USB retrouvée à la préfecture de police de Paris, au bureau de Michaël Harpon. À l'intérieur, des milliers de données, certaines personnelles, d'autres relatives à la propagande de l'organisation État islamique. Autre enquête qui ne fait que débuter, à Rouen cette fois-ci, quasiment 2 semaines après l'incendie de l'usine chimique de Lubrizol. Quelle est l'origine du drame? Quelles sont les cause de cette catastrophe? Les investigations ont débuté aujourd'hui sur le site. Une chose est sûre, 130 plaintes ont déjà été déposées à l'initiative d'habitants, d'entreprises ou encore de communes touchées par les conséquences de l'incendie. Une manifestation s'est tenue sur place en fin de journée, rassemblement à l'appel de Greenpeace, de la CGT, de Force Ouvrière et de la Confédération Paysanne. Tous demandent la transparence et la vérité. Eux aussi étaient dans la rue aujourd'hui, ou plutôt sur les routes de France pour manifester leur détresse. Eux, ce sont les agriculteurs. Blocage, opération escargot à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Tous mobilisés contre les arrêtés anti-pesticides, les accords de libre-échange ou encore ce qu'ils appellent l'agribashing. Entendre par là, en bon français, la stigmatisation et le dénigrement de la profession agricole. Pour tenter de répondre à cette colère, leur ministre de tutelle, Didier Guillaume, a reçu certains de leurs représentants, parmi eux Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA.
Tout est prétexte à critiquer. Aujourd'hui, c'est les pesticides, où certains disent n'importe quoi, y compris les plus grands dirigeants, comme Ségolène Royal, qui s'est fait retoquer par tous les médecins. Donc nous voulons que la parole scientifique prévale et que dans les décisions qui vont être prises, à la fois pour l'homologation de certains produits phytosanitaires, pour la protection des riverains, ce soit les scientifiques qui soient écoutés, et non pas l'émotion, le sondage qui fera la décision. Ça, c'est très concret. De la même façon, dans une proposition de loi, il y a un amendement qui est déposé pour délit d'entrave, empêcher empêcher les agriculteurs de faire leur métier, d'élever leurs animaux. Il faut qu'il y ait des sanctions vis-à-vis de ceux qui font des intrusions dans les élevages, qui brûlent les élevages, comme on l'a vu aujourd'hui, et que les sanctions soient véritablement plus lourdes. Il faut aussi que dans les normes qui sont surtransposées, la France arrête de mettre les agriculteurs en situation de disqualification. C'est-à-dire que quand on nous met des boulets aux pieds, on ne peut pas courir aussi vite que les autres pays européens.
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole de France, et les jeunes agriculteurs appellent à poursuivre la mobilisation la semaine prochaine. Souffler le chaud, puis souffler le froid. L'art de la politique selon Donald Trump. Dans le dossier syrien, le locataire de la Maison Blanche l'affirme aujourd'hui. Les Kurdes sont des gens formidables, de merveilleux combattants. Les États-Unis ne vont pas les abandonner, surtout s'ils sont menacés par la Turquie. Voilà ce qu'écrit le magnat de l'immobilier, le président milliardaire, au détour d'un tweet. Des propos qui nuancent très clairement avec ceux tenus la veille. La Maison Blanche a annoncé hier un retrait des troupes américaines stationnées dans le nord de la Syrie. Retrait qui ne concernerait que 50 à 100 membres des forces spéciales. En attendant, les bruits de bottes se font entendre à la frontière turco-syrienne. Le ministre de la Défense du président Recep Tayyip Erdogan le dit, la Turquie est prête à lancer l'offensive contre les Kurdes. À Istanbul, la correspondance d'Anand Lower.
Si l'armée turque n'a pas encore frappé les cibles kurdes en Syrie, ce n'est pas que le président Recep Tayyip Erdogan a renoncé à l'opération ou qu'il envisage de le faire. Le ministère de la Défense a répété ces dernières heures que ses troupes étaient prêtes à franchir la frontière. Ankara temporise d'abord pour s'assurer que les soldats américains ont complètement évacué la zone concernée par la première étape de son offensive. Selon des sources turques, cela pourrait prendre plusieurs jours. Ensuite, les autorités turques sont en train de jauger les réactions des uns et des autres à l'international. Les dernières déclarations du président américain Donald Trump ne sont pas forcément perçues comme une volte-face, puisqu'Ankara n'a jamais considéré que les États-Unis annonçaient leur retrait total du nord de la Syrie, seulement du voisinage immédiat de la frontière turque. Reste que les propos contradictoires en provenance de Washington encouragent les Turcs à attendre d'y voir un peu plus clair. En fait, qu'il s'agisse des Iraniens, des Russes, des Européens ou des Américains, le président Erdogan est parfaitement conscient de l'opposition unanime que suscitent ses plans militaires. Cela ne dissuade pas pour autant. « Nous n'accepterons jamais un État terroriste à nos frontières », a martelé son vice-président Fuat Oktay en référence au projet autonomiste des forces kurdes dans le nord syrien, et d'ajouter, cette fois-ci dans une allusion tant militaire que diplomatique, « La Turquie n'est pas un pays qui agit en fonction des menaces, quel qu'en soit le prix ».
Anand Lower, correspondante de RFI en Turquie. Outre l'inquiétude des Nations Unies et de la communauté internationale, la Russie, acteur majeur de la crise syrienne et allié du régime de Bachar al-Assad, appelle à ne pas saper le règlement pacifique du conflit. Invité de ce journal, Didier Billon, spécialiste de la Turquie du Moyen-Orient, directeur adjoint de l'IRIS. Bonsoir.
Bonsoir.
La nuit dernière, l'armée turque a mené des bombardements entre l'Irak et la Syrie et ce soir, tout est prêt, assure Ankara. Didier Billon, l'assaut des Turcs contre les Kurdes du nord-est syrien est-il imminent ?
Oui, probablement y aura-t-il une intervention militaire et je me permets de rappeler que Recep Tayyip Erdogan, le président turc, évoque cette éventualité depuis maintenant des mois. En fait, il l'a évoqué dès le mois de décembre 2018, donc il y a presque une année. En réalité, il y a une véritable obsession de la part des autorités turques qui, par tous les moyens, veulent empêcher la cristallisation d'une entité kurde à leurs frontières sur la partie syrienne et qui qualifie cette région d'entité terroriste. Je mets bien sûr des guillemets. Donc je ne vois pas très bien comment Erdogan pourrait reculer, même si, et c'est là où il y a un petit bémol, les tergiversations des États-Unis vont sûrement l'obliger à ramener à la baisse ses prétentions, c'est-à-dire que l'opération militaire, s'il y a, et elle sera probable, sera très certainement de faible ampleur et pour une durée très limitée, et dans un temps restreint, et sûrement malheureusement à prévoir pour les heures, les jours à venir.
Et justement, le président américain a mis en garde Ankara contre tout excès dans cette opération, menaçant d'anéantir complètement l'économie de la Turquie, c'est ce qu'a déclaré Donald Trump. Peut-on s'attendre à une rupture entre Washington et Ankara, voire même à une confrontation ?
Je crois qu'en réalité, c'est un moyen pour Trump de sortir par le haut de cette de cette bévue qu'il a fait en annonçant le retrait des troupes états-uniennes du nord de la Syrie, et que Trump ne peut s'opposer à une intervention militaire turque, il veut simplement qu'elle soit limitée, ça c'est une chose. Pour autant, ça ne signifie pas qu'il y aurait une rupture entre les États-Unis et la Turquie.
Didier Billon, de nombreux prisonniers djihadistes sont retenus par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Peut-on s'attendre à une résurgence du groupe État islamique à l'issue de l'offensive turque ?
Et évidemment, c'est là la grande question, enfin une des grandes questions en tout cas. Nous savons que non seulement l'État islamique, quoi qu'en pense et quoi qu'en dise M. Trump, n'a pas été éradiqué. Certes, l'État islamique, et ma foi tant mieux, a subi des défaites militaires très importantes, mais nous savons aussi qu'une partie de ses militants, de ses cadres, de ses combattants sont rentrés dans la clandestinité. Or, la politique ayant horreur du vide, s'il y a une zone d'instabilité nouvelle qui se crée au nord-est de la Syrie à cause de l'intervention militaire de la Turquie, eh bien, immanquablement, les djihadistes vont profiter de cette situation de déstabilisation accrue pour tenter de relancer des opérations. Nous savons qu'une partie des djihadistes prisonniers, mais ils sont quand même au nombre d'environ 10 000. Donc là aussi, le danger sera accru. Donc tout cela est évidemment infiniment inquiétant, non seulement pour la stabilité des pays au premier chef concerné, la Syrie et l'Irak, mais plus largement pour des pays comme ceux de l'Union européenne, de la France, qui ont déjà été victimes d'attentats et qui pourraient l'être à nouveau si l'État islamique, sous cette forme ou sous d'autres formes, replanifie un certain nombre de opération terroriste.
Didier Billon, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle crise humanitaire en Syrie? Et plus globalement, quel peut être le rôle des instances internationales? Je pense évidemment à l'ONU et de son Conseil de sécurité.
Crise humanitaire, oui, puisque évidemment, une opération militaire, même de faible ampleur, je crois que c'est l'hypothèse la plus probable, comme je l'évoquais précédemment, eh bien, vont de nouveau générer des flux de personnes, de familles qui cherchent à fuir la zone des combats et qui donc vont se diriger vers la région qui est encore la plus sûre, c'est-à-dire le sud de la Turquie. Or, c'est justement ce que veut éviter le président Erdogan, mais en affirmant qu'il veut se débarrasser d'une partie des 4 millions de réfugiés syriens qui se trouvent sur le sol turc, eh bien, une opération militaire générerait un nouvel afflux. Donc là, il y a une contradiction à ce niveau-là qui est évidente. Que peuvent faire les instances internationales? C'est bien la grande question, c'est-à-dire que la dite communauté internationale et l'ONU en premier ont marqué, malheureusement, depuis les débuts de la crise syrienne, leur impuissance totale, où les fausses solutions, où les erreurs multiples ont été commises, et je crains fort que si, par exemple, aujourd'hui, une résolution était posée au Conseil de sécurité visant à condamner toute intervention militaire, eh bien, elle se, au mieux, heurterait à un veto, au pire, à une résolution qui n'aurait pas de suite. Je ne veux pas être cynique, j'essaye d'être assez lucide et je considère que malheureusement, la dite communauté internationale a totalement failli sur le dossier syrien, et qu'aujourd'hui, il va falloir parer au plus pressé, c'est-à-dire tenter, tant que faire se peut, d'organiser des opérations humanitaires, si tant est qu'il y ait de nouveau un flux de réfugiés qui se développe. On en est là, c'est pas un bilan positif, mais les apprentis sorciers ont de ce point de vue une très large responsabilité dans la dégradation de la situation.
Ce sera le mot de la fin. Merci Didier Billon. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Turquie, du Moyen-Orient, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Le ton monte entre Donald Tusk et Boris Johnson. Le Premier ministre britannique joue avec l'avenir de l'Europe, selon le président du Conseil européen. Londres a jusqu'à la fin de la semaine pour présenter à Bruxelles un compromis acceptable à maintenant 23 jours, un peu moins même, de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les explications à Londres avec Otsoufi.
Tout au long de l'après-midi, au Parlement, à la télévision, sur les radios, ici, les proches du Premier ministre ont répété que les négociations étaient sur le point d'échouer. On s'oriente maintenant vers un no deal, insiste-t-il, une sortie sans accord au 31 octobre. Mais pour les opposants à Boris Johnson, c'était sa stratégie depuis le début. Keir Starmer, en charge du Brexit au Parti travailliste.
La sombre réalité, c'est que le gouvernement a fait des propositions qui étaient destinées à échouer. Il ne veut toujours pas assumer les responsabilités de ses actions.
Dans un message posté sur son compte Twitter, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a d'ailleurs accusé le chef de l'exécutif britannique de jouer à un stupide jeu des reproches, soulignant que ce qui est en jeu, c'est l'avenir de l'Europe et du Royaume-Uni. « Vous ne voulez pas d'accord », a-t-il écrit, « vous ne voulez pas de prolongation, vous ne voulez pas de révocation, quo vadis, où allez-vous donc ? » Les deux hommes se retrouveront dans un peu plus d'une semaine, les 17 et 18 octobre, avec les 27 chefs d'État et de gouvernement pour un sommet européen qui s'annonce tendu.
Haute-Soufi à Londres pour France Culture. Autodidacte qui fut tour à tour journaliste, éditrice et historienne, Georgette Elger est décédée aujourd'hui, mardi 8 octobre, auteur d'une impressionnante histoire de la 4e République, commencée dans les années 60 et achevée en 2012. Georgette Elger avait 90 ans. Le temps demain sera agité du sud-ouest au nord-est en passant par le massif central avec des pluies et des averses. Ailleurs, le ciel sera variable, sec et ensoleillé en fin de journée. Sur le pourtour méditerranéen, température minimale de 9 à 14 degrés du nord au sud. Les maximales sont comprises entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez et Clément Dautré.